Du bien-être au travail, du bonheur, des professionnels engagés. Bienvenue sur Radio Catherine, un podcast où nous parlons d'environnement professionnel positif. Je m'appelle Catherine Ledviller, je suis coach en bien-être au travail et directrice d'institution d'accueil de l'enfance. Mon intention avec ce podcast, c'est de vous inspirer, de vous donner des clés, d'impulser un maximum d'ondes positives. Et pour réaliser ça, je pars à l'aventure avec mon van, à la rencontre de professionnels engagés qui placent l'humain et le bien-être au cœur de leur mission professionnelle. Si vous souhaitez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast que je publie sur mon site inesa.ch, sur mon compte Instagram et que vous trouvez également sur les plateformes de podcast. Aujourd'hui, j'ai pris la route pour rencontrer Virginie Lamaborla qui m'a donné rendez-vous dans la magnifique région du Lavaux, dans le canton de Vaud. Après un master en psychologie du travail et des organisations, Virginie Lamaborla a trouvé son bonheur professionnel dans les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, elle soutient et accompagne des individus et des équipes multiculturelles au travail sur des sujets très divers. L'ensemble de ses expériences professionnelles s'articule autour de l'accompagnement lors d'un changement. Virginie Lamaborla s'est également formée au coaching orienté solutions ainsi qu'à la psychologie positive. Son cabinet L'Optimiste a ouvert ses portes en 2022. Dans cet épisode, Virginie nous parle d'optimisme. Au travers des connaissances scientifiques issues de la psychologie positive, elle nous partage de nombreuses stratégies simples et efficaces pour améliorer sa résilience, augmenter sa satisfaction et son bonheur dans la vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Radio Catherine. Aujourd'hui, j'ai pris la route pour rencontrer Virginie Lamaborla. Salut Virginie.
Bonjour Catherine, merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Je suis très contente aujourd'hui d'être là, bien qu'il fasse un temps exécrable dans ces magnifiques vignes du Lavaux. Mais on va aborder avec toi une thématique qui est bien en lien, l'optimisme en entreprise. Comment on peut aussi avoir un regard optimiste, bien qu'on n'ait pas d'emprise sur l'environnement comme on pourrait le souhaiter. Mais donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va définir déjà ce que c'est l'optimisme et puis qu'est-ce qu'il y a comme avantage finalement à le cultiver en entreprise. Ça paraît vraiment assez clair et que c'est bien plus agréable et productif de travailler avec des collègues optimistes plutôt qu'avec des collègues éternellement négatifs. Mais pourtant, on est bien d'accord aussi qu'un brin de pessimisme, ça peut aussi être productif parce que ça amène un certain réalisme, surtout dans certains projets. Mais donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse définir tout ça et également que tu puisses partager par quels moyens on peut accompagner une organisation dans un changement positif et parfois réinstiller un peu de motivation au travail grâce aux connaissances que l'on a sur la psychologie positive. Donc,
tout un programme,
je m'en réjouis de partager. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va un petit peu parler de toi. J'ai pris l'habitude de demander à mes invités de me proposer un lieu qui les inspire, notamment sur le bien-être et le bonheur. Donc, ce lieu, qu'est-ce qu'il t'inspire ?
Alors, j'ai choisi les vignes du Lavaux et puis ce magnifique panorama sur le lac Léman. Premièrement, parce que c'est un lieu où sont réunis tous les éléments du bonheur pour moi, selon moi. Donc, c'est dehors, parce que pour moi, le bonheur, il est souvent dehors. Il y a des montagnes, on est dans la nature. Donc, c'est un lieu qui me parle. Après, c'est aussi un lieu qui permet de s'évader. On voit le Valais, on peut voir la France, on peut voir le côté Genève. Et puis, c'est un panorama à 180 degrés. Ici, finalement, c'est aussi un lieu qui est pour tous. C'est un lieu où on peut venir en famille pour se balader avec les enfants. C'est un lieu où on peut venir en amoureux. C'est un lieu où on peut venir aussi tout seul pour réfléchir ou lire un livre sur un banc. Donc, c'est un lieu qui, pour moi, inspire la sérénité et puis qui permet aussi une certaine perspective. Voilà, un bon lieu pour réfléchir et être heureux.
Merci. C'est vrai que c'est un beau lieu. J'y étais déjà venue avec un autre invité, mais on avait dû quitter parce qu'il y avait les vignerons qui étaient en train de tailler.
Ça, c'est le côté réaliste.
Donc, un lieu effectivement très inspirant. Donc, le thème du podcast, c'est le bonheur et le bien-être au travail, parce que c'est évident que c'est un levier super important, parce que ça a un impact sur soi, mais sur l'environnement dans lequel on travaille, sur ses collègues, sur les clients. Pour toi, c'est quoi ta définition du bien-être au travail et comment tu le vis ?
Alors, pour moi, le bonheur au travail, c'est quand le travail fait du sens dans la vie plus large. C'est quand tout est aligné, finalement. C'est quand on peut être soi-même partout, y compris au travail. Je pense que le bonheur au travail, il se traduit différemment pour chacun, mais aussi selon les phases de la vie. Je vois pas forcément quelque chose comme quelque chose de constant ou de statique. Il y a quand même probablement une équation ou une recette ou une formule magique, mais elle va varier en fonction des personnes et en fonction des temps de la vie, je pense. Donc pour moi, en ce moment, le bonheur au travail, c'est me sentir utile, de préférence à quelqu'un ou à quelque chose. Donc il y a une notion de sens. Dernièrement, j'ai fait un tout petit peu de bénévolat dans le contexte de l'aide à l'insertion pour des réfugiés. Et puis j'ai pas fait beaucoup, j'ai vraiment contribué un tout petit peu, mais déjà ce tout petit peu, ça m'a rempli de bonheur. J'ai observé que waouh, c'était quelque chose de puissant. Sinon, le bonheur, c'est aussi pour moi apprendre des nouvelles choses. J'aime ça, pouvoir expérimenter des choses. Et par contre, c'est aussi un équilibre entre utiliser ce qu'on sait déjà faire, donc être dans sa zone de confort, et apprendre des choses nouvelles. Si on est tout le temps dans l'inconfort et dans l'apprentissage de choses nouvelles, je pense qu'on peut s'user. Pour moi, ça passe aussi par créer des choses, développer des choses, pour pouvoir avoir un impact, un résultat tangible. Donc il y a la notion de résultat, en plus d'avoir du sens. Et puis je regarde dans ma journée de travail les moments où je suis très absorbée, hein, ces moments qu'on définira sûrement plus tard comme l'état de flow. C'est quand je fais des recherches, c'est quand je cherche sur un sujet, ou alors quand je crée quelque chose, ou alors dans mon activité d'indépendante, quand je fais des coachings, c'est les moments où les gens se racontent. Donc il y a aussi le lien à l'autre et les gens sont vraiment intéressants. Je remarque aussi que mon niveau d'énergie, il est dans les interactions avec les autres. Animer quelque chose, recevoir quelque chose en retour des gens, des informations, une énergie. Et puis, je pense que le bonheur au travail, c'est aussi quand on a la capacité de résilience. Parce que dans le domaine du travail et dans la vie en général, on est forcément constaté à des échecs ou à des choses qu'on appelle des échecs. Et puis, le bonheur, c'est de savoir surmonter ça, c'est de savoir puiser dans ses ressources pour être résilient et puis continuer son chemin en ayant appris quelque chose de cette situation.
Merci, large panel qui t'amène au bonheur.
Peut-être, si je peux me permettre, j'aimerais peut-être contextualiser ça aussi déjà dans un cadre de...
Oui, t'aimerais recontextualiser?
Oui, et puis peut-être j'aimerais apporter une définition officielle, pas que la mienne, sur le bonheur et le bien-être au travail. Donc il y a Martin Seligman, dont on parlera plus tard, qui est une personne qui lui a établi une formule un peu universelle sur le bonheur, mais qui peut aussi être intéressante à considérer dans le travail. Donc pour lui, il y a des éléments ingrédients qui sont pouvoir utiliser ses forces, faire ce quoi on est bon en fait.
Oui.
Il y a aussi mettre ses forces au service d'une cause qui va au-delà de nous-mêmes. Lui dit for the greater good, pour quelque chose de oui qui va au-delà
Oui.
de plus grand. Et puis d'avoir du plaisir dans les activités. Voilà. Donc de pouvoir retirer un état d'absorption, de perte de notion du temps, tellement on est absorbé dans ce qu'on fait.
Absolument. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure de Martin Seligman et de sa théorie, ses différentes théories. Aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on revienne sur ta double fonction, parce qu'à la fois tu travailles dans les ressources humaines et d'une grande multinationale, et puis en parallèle, tu es donc indépendante et tu as fondé ton entreprise de coaching, L'Optimiste.
Oui.
C'est quoi ce parcours qui t'a amené à vouloir aussi devenir indépendante?
Alors, bon, moi je suis psychologue du travail de formation, j'ai une carrière RH dans des multinationales, dans les biens de consommation, dans la pharma. Dans mon parcours, j'ai tout s'est toujours, et c'est des fois un hasard quand même, tout s'est toujours articulé autour du changement. Accompagner des nouvelles équipes à devenir performantes, accompagner des équipes et des organisations lors de fusions, lors d'acquisitions. Donc, partout dans mon parcours, il y avait cette constante qui était le changement et l'accompagnement du changement. À un moment donné, j'ai eu envie de me former avec des outils de coaching. J'en avais besoin, voilà, dans mon contexte professionnel. J'avais envie d'avoir des outils. Et puis donc, j'ai croisé le chemin du coaching orienté solution, qui a été comme un déclic, parce que ça apporte cette bienveillance, cette orientation vers le positif, vers le possible, plutôt que de parler du problème. Donc ça fait des années que j'utilise ça au quotidien. Et puis, dans ma pratique RH, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie positive, beaucoup de bienveillance, même dans les moments plus sombres des ressources humaines, parce qu'il y en a, comme dans tous les métiers, il y a des moments de restructuration, Et je pense que comme la manière dont on le fait, ça peut tout changer. Et puis, bah, l'année dernière, je me suis sentie un petit peu usée. J'ai eu envie de réfléchir à mon équation du bonheur, au travail notamment, et de réfléchir sur moi-même. Et donc, j'ai fait pas mal de formations sur la psychologie positive, notamment celle de la Penn University, qui est chapeautée par Martin Seligman. Et puis, ça m'a amenée à réfléchir sur qu'est-ce que je voudrais faire différemment. Et puis là, j'ai identifié peut-être que j'étais pas complètement accomplie et puis que j'utilisais pas toujours mes forces au travail. Donc, j'ai fait ce travail-là de réfléchir et puis de rééquilibrer. Et puis, à la suite de ça, moi, j'ai pris un autre poste, toujours dans la même entreprise, où je m'occupe, en fait, de la gestion du changement, de l'expérience employée. Donc, c'est vraiment de mettre l'employé au centre des pratiques. Et puis aussi, j'ai la chance en ce moment de travailler sur la thématique du bien-être au travail. En parallèle à ça, j'ai eu envie d'utiliser mes compétences en dehors du domaine corporate. Et c'est pour ça que j'ai créé ce cabinet qui s'appelle l'Optimiste. Parfois on me demande, mais est-ce que c'est du coaching professionnel ou personnel? J'ai de la peine à répondre parce que souvent on se rend compte que c'est un tout. Donc on vient souvent frapper à ma porte pour une problématique professionnelle et puis on finit par parler d'un tout parce que c'est difficile de séparer
évidemment, on
les pas... choses.
On a cette tendance de séparer vraiment le travail, qui on est dans sa vie privée, et puis on n'est qu'une seule personne.
Oui, c'est ça.
À se dissocier de ce qu'on vit, on entend souvent encore, voilà, ça c'est ce qui t'arrive chez toi, ça reste hors du travail.
Mais c'est en train de changer.
Et ça évolue, heureusement, parce que ça ne veut pas dire qu'on doit être envahi par ce qui nous arrive dans notre vie personnelle, ni l'inverse, mais les problématiques du travail, on les ramène aussi avec soi à la maison.
Oui. Et puis, alors voilà cette équation avec un rôle dans une grande multinationale et puis un à côté indépendante que je contrôle quand même à 100%. Voilà, c'est ma formule magique du moment. Et puis, on verra bien. Je reste en observation sur quels sont mes besoins et mes envies. On verra comment la formule évolue.
Merci. L'objectif donc du podcast est de donner des conseils et puis d'inspirer les auditeurs à être acteurs dans la création d'un environnement professionnel positif. Je l'ai dit aussi en introduction, il y a des événements, des éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Et puis, je pense souvent au cercle d'influence de Coven, qui est excellent, justement, qui illustre ça très bien. Mais on a tout de même beaucoup de leviers sur lesquels on peut agir en tant que collaborateur ou en tant que dirigeant d'une institution. J'aurais aimé qu'on puisse aborder avec toi la thématique de la psychologie positive et de voir de quelle manière, en connaissance de ces différents axes, on peut améliorer l'environnement de travail.
Oui. Alors peut-être je vais d'abord expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la psychologie positive, parce que tout le monde ne connaît pas.
Et souvent d'ailleurs on confond pensée positive, exact. Il suffit de penser positif pour que tout aille bien, c'est pas que ça.
Non, alors c'est pas vraiment ça.
C'est une branche, je crois, de la psychologie positive, la pensée positive, mais c'est pas, enfin qui a étudié, mais c'est pas ça.
Voilà, exactement. Bon, bah, la psychologie positive, c'est une discipline scientifique qui est relativement récente. Donc, on attribue à Martin Seligman la fondation de cette discipline en 1998. Et puis, c'est une discipline qui s'intéresse à la qualité de vie, au bien-être, et puis finalement à ce qui rend les êtres humains résilients, heureux, optimistes, plutôt que de s'intéresser aux psychopathologies. Donc, plutôt que de traiter la maladie mentale et puis de définir le bien-être comme l'absence de maladie mentale, c'est l'autre volet. Donc c'est vraiment une discipline qui soutient l'être humain, dont l'identification de ses forces et puis comment les mettre au service de son propre bien-être et de son propre bonheur. Alors comme tu l'as dit, ça prescrit pas d'être tout le temps positif, ça serait très contre-productif en fait. Donc ça, ce serait la pensée positive. La psychologie positive, c'est plutôt d'aider les gens à trouver les ressources pour accepter ce qu'ils ressentent, même ça peut être des émotions négatives, et puis de trouver un ancrage, une compétence, une façon pour pouvoir tout de même continuer et voir la vie du bon côté. Bon, c'est très résumé, hein. J'encourage les gens d'aller lire les livres de Martin Seligman, notamment La force de l'optimisme, où il y en a d'autres, pour avoir vraiment toutes les références en cas d'intérêt.
Et puis finalement, comment ces connaissances de la psychologie positive, elles peuvent influer sur les organisations? Comment on peut mettre justement, bah, par exemple, les forces au centre?
Ouais. Alors, ben, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais il y a un modèle qui a été développé par Martin Seligman qui s'appelle PERMA. P-E-R-M-A. Alors, comme beaucoup d'acronymes, c'est en anglais, mais on va tenter une traduction. Donc, le P, c'est pour Positive Emotions, donc c'est pour les émotions positives. Et donc, c'est tous les ressentis, les ressentis positifs, la joie, la surprise, la gratitude, la sérénité. Donc, l'idée, c'est de ressentir des émotions positives et du plaisir dans la vie quotidienne et donc aussi au travail. Mm-hmm. Le E, c'est pour engagement. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut s'impliquer avec enthousiasme dans quelque chose, de trouver cet état de flow hein, auquel mm-hmm. je me référais tout à l'heure, où on perd la notion du temps, où on est pleinement engagé dans le ici et maintenant. Donc ça, je pense que c'est aussi une référence très intéressante par rapport à l'entreprise. Il y a bien sûr les relations, le R, c'est relations positives. Donc avoir des relations positives et authentiques, c'est nécessaire et c'est une source de bonheur. Alors bien sûr dans le privé, mais au travail aussi.
Évidemment.
Par exemple, avoir des collègues positifs et soutenants, c'est une façon de réduire le stress aussi. Mm-hmm. Le M, c'est pour « meaning », donc le sens. Donc avoir une existence cohérente ou un travail cohérent, aligné à nos valeurs, mais aussi oui, qui nous donne du sens, à quoi on sert ici dans la mm-hmm. vie, mais aussi au travail. Et puis on est plus heureux, comme on l'a dit, si on arrive à contribuer à une cause qui nous dépasse, mm-hmm. qui va au-delà de sa personne. Et puis le A, c'est accomplissement, donc le besoin de réussite, de réalisation, un sentiment d'efficacité personnelle. Donc, si je fais le parallèle avec le monde des entreprises, alors ben, depuis toujours, les organisations s'intéressent à ces aspects-là, hein, parce qu'on sait qu'un mm-hmm. employé engagé, c'est un employé productif. Donc, on a des outils classiques qui ne sont pas récents, le management par objectif, les bonus, plus récemment, les équipes autodirigées, mm-hmm. ou une manière d'organiser le travail pour que ça fasse du sens. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des enquêtes satisfaction ou qui mesurent l'engagement mm-hmm. au travail. Alors, bien sûr, le vocabulaire de l'entreprise, il est très différent de celui de la psychologie positive, hein, quand même. Mm-hmm. Peut-être on tourne un peu autour du pot. mais je pense qu'on a eu un moment clé avec le Covid.
Oui, qui a mis en lumière énormément de...
Qui a brisé les mm-hmm. frontières du privé et du professionnel, où finalement, les gens, les collaborateurs se posent des questions. Il y a une vague de grandes démissions dans beaucoup de pays. Donc, les entreprises sont quelque part obligées de passer un peu à la vitesse supérieure en ce qui mmh. concerne le bonheur et le bien-être au travail. Donc, moi, je pense que les entreprises doivent continuer à se poser des questions sur le sens. Est-ce que la description de fonction que j'ai créée ou est-ce que le département que j'ai créé ou que je veux créer fait du sens? Est-ce qu'il couvre un certain niveau d'autonomie? Est-ce que les gens vont pouvoir voir le résultat de leur travail? Ou est-ce que finalement... Ce que ce département produit, c'est une toute petite chose qui va finir dans un tiroir. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être organiser le travail autrement. Mm-hmm. L'engagement, il est souvent mesuré, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas seulement un score, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis l'engagement de manière collective, c'est une chose, mais je pense qu'il faut essayer d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière l'engagement de chacun.
La contribution individuelle.
Exactement. Vraiment. Et ça, je pense qu'un des leviers importants, c'est le manager. Mmh. C'est d'avoir un contact humain et puis de comprendre les besoins mmh. des individus et de savoir y répondre. Après, par rapport à l'accomplissement, ce que je disais au tout début, c'est attention aussi à ce que les gens ne s'épuisent pas. Parce que peut-être qu'ils travaillent très dur, mais que leur impact n'est pas assez visible pour eux-mêmes, ou alors qu'ils n'ont pas suffisamment de satisfaction ou de remerciement. Mmh. Donc, il y a encore beaucoup de pistes de réflexion, je pense, pour les entreprises.
Merci. Par rapport à l'optimisme, parce que c'est quand même le nom de ton entreprise, mmh. l'optimiste, donc j'aimerais bien qu'on puisse y venir, parce que c'est aussi une des branches de la psychologie positive, d'ailleurs. D'ailleurs, si on peut faire le lien avec aujourd'hui, il fait un temps pourri, il fait froid, oui. il pleut, etc.
Disons, le panorama n'est pas aussi spectaculaire que j'avais espéré aujourd'hui.
Et puis, effectivement, un pessimiste pourrait se dire, on annule tout, on se voit pas, et puis on trouvera le moment opportun où toutes les conditions seront peut-être réunies. Ou alors, on peut se dire, ah ben génial, il pleut, c'est l'occasion de pouvoir être tout cocooning. Enfin, c'est une question aussi de perspective.
Exactement.
Alors, est-ce que, ma première question, est-ce que l'optimisme, c'est vraiment aussi qu'une question de perspective? Et est-ce que, de base, de naissance, on est plus optimiste ou pessimiste selon son héritage génétique? Qu'est-ce qui influence en fait tout ça?
J'adore cette question. Alors, il y a des études très sérieuses qui se sont penchées sur la question de quelle est la part héritée, est-ce que c'est fixe, est-ce que ça peut changer. Et donc, il y a une étude qui a été faite qui a démontré qu'il y avait à peu près 50% d'hérédité. Donc, on peut naître plus ou moins positif, enfin, plus ou moins optimiste ou plus ou moins pessimiste. Il y a à peu près 10% qui dépendent encore d'autres facteurs sociodémographiques. Mais ça veut dire qu'il reste 40% qui vont dépendre de nos choix, de nos décisions, de la manière dont on a envie de voir la vie. Donc, je trouve que, comme je suis optimiste, je trouve que c'est une excellente nouvelle, finalement. Peut-être qu'il faut dire, ouais, l'optimisme, c'est quoi? Chacun a sa définition, puis je pense qu'il n'y a pas de faux ou de juste. Néanmoins, la définition officielle en psychologie positive, c'est que c'est un style d'interprétation de la vie, une tournure d'esprit qui nous permet de voir le bon côté des choses. C'est aussi un sentiment de confiance dans le dénouement positif des choses. Donc, il y a une certaine facilité à relativiser les choses. Et puis, il y a aussi une volonté de vouloir repérer ses compétences, les utiliser. Et enfin, il y a aussi quelque chose sur la permanence. Donc, les pessimistes voient, s'il se passe quelque chose de négatif, ça, c'est permanent. Mm-hmm. Tandis que les optimistes se disent, bah, c'est temporaire, ça va s'améliorer. Et puis, il y a aussi quelque chose dans la manière dont on s'attribue personnellement les victoires ou les échecs. Et donc, un optimiste, il a plus de facilité à se dire « Oui, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai bien fait ceci que ça s'est passé. » Voilà. Alors qu'un pessimiste va se dire « Bon, ben, j'ai eu de la chance. »
Oui.
Bon, ben, on a vu qu'on pouvait cultiver hein, cet optimisme. Mm-hmm. Néanmoins, il faut le vouloir.
Mm-hmm.
Ça ne se fait pas tout seul, ça demande un certain travail.
Mm-hmm. Après, c'est vrai, moi je trouve que c'est super agréable d'être avec des personnes optimistes. Parfois, par contre, si on vit des situations compliquées, ça peut vraiment nous énerver encore plus de voir son collègue plein d'optimisme, plein de joie. Et puis en fait, non, on a juste envie là de dire que c'est dur et puis d'être dans cet état-là, d'être aussi entendu. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu observes aussi?
Oui, alors je pense que les gens qui s'intéressent à l'optimisme, à la gratitude, aux émotions positives, vont peut-être avoir envie de très vite évangéliser sur le sujet. mais parce que c'est tellement génial qu'on se dit « Ah, oh, mais il faut que je l'explique aux autres !» Par contre, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et puis, je pense qu'un optimisme déraisonné et systématique ne peut pas forcément fonctionner. Mmh. On a besoin d'un optimisme constructif, où on est quand même conscient de la réalité.
La réalité du terrain, notamment. Mais, aujourd'hui, on vit une situation compliquée, il faut aussi l'accueillir, cette situation. Et puis, bien sûr que l'optimisme, je pense que ça peut nous aider à avoir ensuite l'espoir que cette situation va s'améliorer. Mais il faut déjà l'accueillir dans un premier temps.
Mais exactement. Ça passe aussi par l'acceptation de ce qu'on ressent.
Mm-hmm.
Et puis, on a le droit d'être pas heureux à un moment donné. Et puis, j'avoue qu'aujourd'hui, avant de venir, je me suis posé la question sur le contexte politique actuel. Ou est-ce que finalement, est-ce que c'est juste de faire la leçon aux gens sur comment être heureux quand on a un contexte aussi difficile en ce moment?
Oui.
Donc, tout est une question de pondération, comme toujours.
Exactement. Oui, et puis c'est aussi une façon de voir la vie. Enfin, est-ce que parce qu'on sait qu'il y a des misères dans le monde, on ne s'autorise pas à être tout de même heureux?
Mais,
pas simple comme question.
Non, très philosophique.
Tout à fait.
Non, je me demandais si ce serait utile de donner 2-3 idées sur comment cultiver son optimisme dans la vie.
Bah, alors absolument, volontiers, si tu peux nous partager quelques idées.
Oui. Alors, moi, personnellement, j'ai testé plusieurs choses parce que j'aime bien expérimenter dans la vie. Et puis, notamment, tenir un journal de gratitude. Donc, si vous êtes d'une nature plutôt pessimiste, mais que vous avez envie d'essayer de voir la vie sous un jour plus positif, ce qui n'est pas obligatoire, hein. Vous êtes peut-être un pessimiste heureux, mais si vous avez envie de développer cet optimisme, tenir un journal de gratitude, c'est une bonne idée et c'est scientifiquement prouvé, ça aide à cultiver ces émotions positives. Donc qu'est-ce que c'est? Ça voudrait dire peut-être pendant 2 ou 3 semaines, tous les jours ou deux ou trois fois par semaine écrire toutes les choses positives de la journée. Donc, soit on peut le faire le soir pour avoir un coucher agréable en se disant ah, mais finalement c'était une bonne journée. Soit on peut le faire le matin concernant la veille pour commencer la journée avec des émotions positives. C'est quelque chose qui est très efficace. Ou alors voilà, de faire la chasse au bonheur, de réfléchir sur soi-même, sur qu'est-ce qui nous rend heureux et de le noter. De le partager, hein. Oui, de le partager avec les autres, ça aide aussi de discuter. Sinon, une chose qui est intéressante pour les gens qui ont tendance à cristalliser leurs émotions sur leurs échecs, c'est vraiment de sonder le passé et de réfléchir, mais ces échecs, ou ce que moi j'appelle des échecs, qu'est-ce qu'ils m'ont appris sur moi-même? Est-ce que finalement, quelle force j'ai mobilisée pour rebondir? Et puis, il y a aussi le recadrage de la pensée. Donc là, c'est un exercice assez rigolo. C'est d'essayer le catastrophisme jusqu'au bout.
Ok.
Donc ça veut dire, se dire, bon, bah, j'ai peur de faire ça, ou ça n'ira pas, j'ai peur de faire une présentation en public, je ne veux pas le faire, ça sera la catastrophe. Et vraiment d'aller au raisonnement au bout. Alors voilà, admettons, je fais ma présentation en public, je bégaye, je rougis, et alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, la plupart des gens vont être patients, vont écouter, il y a peut-être des gens qui vont un peu rigoler ou faire des remarques après, et alors? Et vraiment d'aller jusqu'au bout de la soi-disant catastrophe, qui soit va nous dire, bah, c'est pas si catastrophique. Ou alors, après, on peut faire le scénario positif. Et alors, dans le meilleur des cas, qu'est-ce que ça donnerait pour arriver à une situation réaliste, sur le cas le plus probable, et puis avoir des stratégies pour, voilà, pour envisager cette situation.
Excellent, bonne idée, merci. Donc là, c'était des pistes vraiment par rapport à l'optimisme, oui. De manière plus générale par rapport au bien-être au travail. Quels seraient les top 3 de tes bonnes pratiques que tu proposerais aussi? Tu as aussi beaucoup d'expérience dans le changement. Donc, si vraiment maintenant un auditeur a envie d'amener du changement dans son entreprise, dans son institution, ce serait quoi, toi, ton top 3? Sans évangéliser, justement, en arrivant le jour d'après, en voulant révolutionner tout, ce serait quoi les étapes? Et puis...
Je ne sais pas si je vais amener quelque chose de révolutionnaire ici, Catherine. mais justement, parfois, c'est les choses les plus simples qui sont efficaces. Moi, je prône plutôt un retour à la simplicité, à la connexion humaine. Après, si je réfléchis vraiment dans le cadre de l'entreprise, il y a trois grands leviers, trois grands niveaux d'intervention possibles. Individuel, donc au niveau de chacun. Managérial, donc le rôle du manager dans tout ça. Et puis organisationnel. En ce moment... on voit se développer pas mal de ressources individuelles dans les grandes entreprises. On met à disposition des outils de mindfulness aux employés. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. Parce que la recherche a démontré qu'il y a maximum 20% des gens qui vont faire appel à ces ressources ou qui vont avoir l'intérêt de les expérimenter.
Ce serait quoi, par exemple?
Par exemple, un peu de la méditation, ou des ressources pour prendre soin de soi, ou offrir des cours de yoga,
l'entreprise.
Exactement. Donc, c'est très bien. Je pense que ça devient un must, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a un levier beaucoup plus profond, organisationnel, qui touche à la culture de l'entreprise. Et là, c'est difficile d'en venir à la pratique parce que c'est quelque chose d'un peu immatériel, la culture. Mais ce serait vraiment d'établir une culture de la reconnaissance et du merci. Et après, on peut se poser la question sur comment le faire. Hein, mais ça, finalement, ça commence par chacun, par soi-même. On attend un bon rôle modèle soi-même. Et ça, je pense que pratiquer la gratitude et la reconnaissance au travail, tout le monde peut le faire. Bien sûr, ça doit être démontré au niveau du top management et dans la culture.
Incarné, hein.
Voilà. Mais je pense que chaque employé peut aussi décider de le faire. Et puis, on sait que ça a comme ça un effet d'émulation. L'autre chose, c'est autoriser les gens ou les encourager à être eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment cette frontière entre le privé et le professionnel qui est en train de tomber. Et d'amener son soi au travail, et que ça soit acceptable. Et puis, une certaine flexibilité. Beaucoup d'entreprises pensent maintenant au travail hybride. Beaucoup d'organisations dans plein de pays se demandent est-ce qu'on va demander aux gens de revenir au travail à plein temps ou pas. Et je pense que le secret, c'est dans l'adaptation, que chacun puisse faire un peu comme il lui convient.
Quand c'est possible, parce que dans certaines organisations, quand on est au service de personnes, il n'y a pas cette flexibilité-là. C'est vrai que ça génère quand même passablement de frustration pour toutes ces personnes qui, en fait, n'ont pas le choix d'avoir un horaire flexible.
Oui, c'est vrai. Ça, je suis très consciente que pas tous les contextes permettent autant de flexibilité. Mais même dans des contextes très, très carrés, avec des horaires de guichet, il doit y avoir un moyen d'offrir de la flexibilité, alors à un autre niveau, sur un autre sujet.
Oui, moi, j'aime bien donner le choix. Les collaborateurs ont la possibilité d'avoir au moins un choix dans leur horaire. Oui. Et puis, c'est de permettre déjà à certains niveaux de décision.
Et puis, par rapport aux forces, donc on en parlait tout à l'heure de comment est-ce que les gens peuvent utiliser leurs forces au travail. Alors, il faut de nouveau une culture qui permet de le faire, qui permet une certaine flexibilité. Mais après, il faut aussi un intérêt personnel. Je pense que chacun peut réfléchir à ses forces, à ce qui lui donne le plus d'énergie au travail, puis essayer de le faire davantage. Mmh. Alors, si on déteste les rapports Excel et que ça ne nous donne pas d'énergie, puis qu'on est comptable, peut-être qu'on est quand même obligé de faire son rapport Excel. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on peut tout changer.
Non.
Mais je pense qu'au niveau individuel, on peut avoir certains petits leviers pour réfléchir à ça, faire des propositions. Et puis, le pendant, ce serait vraiment qu'au niveau management et organisationnel, on soit ouvert à ce type de réflexion. Il y a des descriptions de fonctions, mais il y a des gens où on découvre qu'ils sont très forts à quelque chose qui n'est pas très loin de leur domaine. Pourquoi pas les laisser aussi expérimenter ça?
C'est intéressant ce que tu dis, mais c'est bien de rendre chaque collaborateur acteur et puis qu'il fasse des propositions, qu'il ne subisse pas juste l'organisation qui est mise en place. Les choses, elles peuvent évoluer.
Oui, on a toujours des choix dans la vie, tant qu'individu.
Absolument. Si tu pouvais encore donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent pour cultiver leur bonheur, ce serait quoi?
J'aurais de la peine à m'en tenir à un conseil, Catherine.
Alors, si tu en as plusieurs.
Mon conseil, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui vous rend heureux. Donc, ce serait peut-être en trois étapes. De réfléchir à qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie. Notez-le, parlez-en, partagez avec vos amis, essayez de collecter des perspectives. Puis surtout, une fois que vous avez repéré ces moments, puis ça peut être des petites choses, ça n'a pas besoin d'être des gros événements, mais par exemple un petit moment sur son vélo où on se sent bien, on se sent libre, chacun trouvera ce qui lui parle. Donc ça, c'est une première chose. Donc une fois qu'on a bien identifié, les savourer pour pouvoir se replonger dans ces émotions positives et les amplifier. La deuxième chose, c'est d'essayer de réfléchir à quels sont vos talents, vos forces de caractère dans la vie, mais aussi au travail. Parce que essayez de les utiliser le plus possible au travail, ou alors quand vous vous trouvez en situation difficile, où votre niveau d'optimisme est au plus bas, ou quand il se passe un coup dur dans la vie, allez puiser dans ces ressources-là, donc les connaître, allez puiser dedans, c'est quelque chose de très puissant. C'est vraiment quelque chose qui peut aider. Et puis, la troisième chose, ce serait de réfléchir, dans la vie, quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? Et puis, ça va pas toujours être possible d'avoir un travail dans ce domaine-là. Mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Donc, vous avez toujours la possibilité d'équilibrer en faisant une activité à côté, du bénévolat, etc. Donc, il y a ces trois choses-là que je voulais dire. Puis, la dernière, c'est que rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'influencer sur votre bonheur. Et entourez-vous de personnes heureuses et optimistes. Parce qu'il y a une étude que je voulais mentionner qui dit qu'avoir un ami heureux augmente la probabilité d'être heureux soi-même d'environ 15%. C'est pas rien. Et puis après, l'impact diminue au fur et à mesure du degré d'éloignement. Donc typiquement, si un ami d'un ami est lui-même heureux, ça peut augmenter votre probabilité d'être heureux de presque 10% quand même.
Ah, ça vaut la peine.
Le cercle, il diminue. Donc pensez-y, entourez-vous des personnes qui vous donnent de l'énergie positive et des personnes qui sont optimistes et heureuses.
C'est vrai que on n'a pas envie de mettre de côté les personnes négatives, mais c'est vrai que par moment dans sa vie, quand on est entouré de personnes qui sont très négatives, ça nous impacte tellement. Et puis on a beau être soi et positif, on voit qu'il n'y a pas d'impact sur la personne. Peut-être que ça lui fait quand même du bien, mais il n'en reste pas moins que la personne continue d'être très négative et ça peut être assez polluant, en fait.
Oui, mais c'est acceptable. On ne peut pas forcer les gens à être positifs parce qu'il y a des gens qui traversent des choses très difficiles. Donc, encore une fois, ce n'est pas prescriptif. Mon conseil n'est pas de rayer les gens négatifs de votre cercle d'amis, mais plutôt d'essayer de bien vous mettre en contact et de charger vos batteries auprès des gens heureux.
Oui, absolument. Et puis d'accepter qu'on ne peut pas contaminer des personnes qui ne vont pas suffisamment bien aussi. Et puis, selon les pathologies aussi que les personnes, elles ont, c'est aussi... On n'en a pas parlé, certaines personnes qui sont négatives sont aussi, en fait, en pathologie dépressive. Et puis, il ne suffira pas de quelques moyens de pensée positive ou de d'application de certaines pratiques.
Il faut un vrai traitement.
Il y a un vrai traitement à avoir aussi.
Donc, oui, un accompagnement professionnel, bien sûr, est recommandé.
Absolument. Merci. Et toi, de ton côté, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Quels seraient pour toi tes projets qui te mettent en joie quand tu projettes l'avenir ?
Alors, moi, tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer sur la voie sur laquelle je suis, parce qu'elle me rend heureuse, et puis de continuer à bien intégrer les différentes facettes de ma vie pour que tout continue de faire du sens. Et puis, on peut me souhaiter aussi de continuer d'avoir une observation sur moi-même pour voir si mon équation du bonheur doit changer. voilà, donc c'est aussi simple que ça.
Merci. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tous ces partages et puis tous ces apports aussi que tu as pu nous offrir durant cet épisode. J'espère que ça pourra inspirer certaines personnes dans leur pratique, autant au travail que dans leur vie personnelle. Merci beaucoup, Virginie.
Et merci beaucoup pour l'opportunité. C'était très agréable.
Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.